Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse ?
Le règlement.
Nous devons savoir.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
Je regarde souvent notre photo avec nous trois ensemble parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Sophie. Et maître Mongeon, comment ça va?
Salut Sophie.
Ça va bien, vous?
Ça va bien. On fait ça à distance encore. On respecte les normes, mais on s'ennuie.
Oui, ben c'est, je le répète tout le temps, c'est pas pareil. Je m'ennuie du contact social, je m'ennuie de vous voir. C'est par téléphone, c'est bien, mais en personne, c'est mieux, comme toujours.
Le week-end dernier avait lieu le premier événement sportif majeur dans les deux derniers mois, le gala UFC 249. Et il semble que les règles de distanciation n'ont pas été pleinement respectées. Ben là, je parle pas bien sûr dans l'octogone parce qu'il faut se rapprocher si on veut se casser la gueule aussi. Là. Mais en dehors non plus, la distanciation, le port du masque de protection. Dana White notamment ne portait pas de masque. Pourtant, il est le visage de l'UFC. Même François Legault, maintenant, porte un masque. Là, t'sais.
Oui, bien là, je pense que c'est quelque chose qui va s'instaurer. Ça va être dans nos mœurs maintenant que de se promener en masque. Vous vous rappelez, là, avec des masques, pardon. Vous vous rappelez, il y a bien des années, on voyait les Chinois se promener avec des masques. Et moi, je me rappelle personnellement, je trouvais ça un peu absurde. Mais autre temps, autre mœurs. Puis effectivement, aujourd'hui, je pense que ça va faire partie de notre quotidien. Et cet événement-là marquait le premier événement vraiment qui est repris là, depuis les derniers mois. Donald Trump, d'ailleurs, a fait un vidéo où il y a un message là, qui a été diffusé qui applaudissait cette initiative. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Donald Trump, c'est le premier à
pas
porter de masque. Écoute, il y a des gens dans son entourage qui ont été touchés par le virus et tout ça, puis ils se promènent encore comme s'il n'y avait rien. Et puis Donald Trump, c'est un monsieur quand même de 70 ans, là, je pense, 70, 72 ans. Donc, peut-être pas le meilleur exemple. Là. Donald Trump, je ne sais pas que...
Moi, c'est des contradictions depuis le départ. Et c'est pas juste lui, de nos chefs d'État aussi, même le nôtre. Là, je veux dire, maintenant qu'on voit un masque à la télévision, alors que pendant longtemps, on a été rébarbatif à conseiller aux gens de porter un masque.
Oui, mais c'est difficile. Vous savez, on n'a pas la science infuse. C'est des événements particuliers. Je vais prendre la défense un peu de Dr. Horacio Arruda et je vais prendre la défense un peu de François Legault et de tous les politiciens qui prennent des décisions. C'est très difficile de prendre des décisions quand tu as les gens et la santé des gens à cœur et qu'il faut que tu prennes des décisions pour l'ensemble d'une population. Donc, je trouve pas ça évident là pour nos politiciens. Puis j'ai une pensée pour eux. Parce que quand on décide d'être au public, mais ça vient avec des désavantages. Et parfois, on ne pense pas à tout ça. On a une vie publique, on a une vie privée, et des fois, c'est difficile de faire le partage entre les deux.
Mais en tout cas, dans les UFC, clairement, clairement on fait des entrevues très près l'un de l'autre, là.
Oui, ben c'est un peu comme le retour au travail là, cette semaine en construction. Il y a des contacts physiques qu'on ne peut pas éviter. On fait des efforts particuliers. Là, je sais que je suis en discussion avec le Conseil provincial international de construction, qui eux ont fait des gros efforts là, pour favoriser la sécurité de leurs travailleurs. Mais malheureusement, il arrive que ce qui devait arriver. Actuellement, il y a des infections qui se propagent sur certains chantiers.
D'ailleurs, quand tu es un travailleur, t'es au courant, là, t'as des petits symptômes, mais tu te sens correct pour aller travailler, puis tu y vas et que tu infectes quelqu'un. Est-ce qu'on peut avoir des recours contre toi?
Bien, au départ, là, maintenant, la règle, c'est quand un travailleur se présente sur un chantier, par exemple, il doit déclarer s'il y a des symptômes, s'il était en contact avec des gens, etc. Donc, encore, là, tout ça ici, là, c'est la bonne foi qui se présume. Donc, le travailleur, si sciemment, il sait qu'il est porteur, puis il a besoin de sous, puis il rentre travailler, est-ce qu'il peut être condamné à une amende ou quelque chose? Et là, je me suis mis à poser la question, je pensais un peu à faire l'analogie avec les gens qui ont le sida, le VIH. Si tu le sais sciemment que tu es porteur du VIH, OK, et que tu as des relations avec quelqu'un et tu le contamines, ben à ce moment-là, tu peux t'exposer au niveau criminel. Ouais. Aussi grave que des voies de fait causant des lésions, etc.
Surtout que c'est une maladie très grave, incurable, sauf que moins grave que le sida, qui demeure incurable quand même, il y a l'herpès. Si tu as l'herpès et tu le déclares pas, est-ce que tu peux être poursuivi au criminel également?
Toute la question question, c'est de le savoir sciemment. Ça, ce serait plutôt, étant donné là, qu'il n'y a pas vraiment cette voie de fait causant des lésions graves. Oui, c'est bien sûr que l'herpès, c'est une lésion, mais est-ce que c'est une lésion grave qui peut entraîner la mort? Je trouve que c'est moins pire, si vous me permettez, que le VIH, qu'à l'époque, était une condamnation à la mort.
Oui, exact.
Il y avait plus maintenant aujourd'hui. La question à savoir, c'est l'analogie, pourquoi je le fais avec le sida, c'est parce que quand tu es porteur du VIH, tu peux aussi être asymptomatique au même titre qu'on fait l'analogie un peu avec nous autres, le coronavirus. Donc, à certains moments donné, avec la médication, tu peux avoir une charge virale indétectable. Et donc, à ce moment-là, en principe, ne pas contracter le VIH. C'est un peu la même chose ici. Est-ce que tu le sais? Si tu le sais, tu dois le déclarer. Et moi, personnellement, si je suis en contact avec quelqu'un qui le sait volontairement, sciemment, donc il y a la mens rea, moi, je pense qu'il pourrait être accusé de nuisance publique ou d'agression ou de fait grave, là.
Okay. Retour à l'école, cette semaine en région, les parents devaient choisir de retourner ou pas leur enfant. Nous, chez nous, c'est dans Grand Montréal, c'est le 25 mai, mais on a décidé que les enfants n'y retourneraient pas. Mais malheureusement, ça a conduit des parents devant le tribunal, cette histoire-là.
Oui, il y a deux semaines, vous vous rappelez, j'avais dit que 70 % des gens étaient d'accord pour un retour à l'école. Et toi, tu m'avais dit, t'es sûr de tes chiffres? J'ai dit, OK, je vais aller vérifier.
Ouais.
Ben, à l'époque, quand j'avais fait cette vérification-là, c'était un sondage qui avait été fait le 27 puis le 28 avril. C'est sûr que l'échantillonnage était minuscule. C'était 1006 Québécois francophones. Mm-hmm. 71 % des gens à l'extérieur de la région métropolitaine étaient d'accord. Puis quand on arrivait dans la région métropolitaine, c'était quand même surprenant. C'était 76 % qui étaient d'accord.
76?
Oui, 76. Et 66 % qui étaient d'accord dans la région métropolitaine. Sauf que je reviens avec le principe que je vous ai dit. C'est 1006 Québécois. Est-ce que c'est vraiment un échantillonnage valable? Je suis pas certaine. Sauf que ce que ça fait, c'est que c'est sûr que ça crée des débats. Surtout quand on a une garde partagée. Fait que le tribunal a dû deux fois à date rendre des décisions à l'effet de trancher si les enfants doivent retourner à l'école.
C'est clair. Donc, un parent veut l'envoyer, mais l'autre, non.
Oui. Dans un des dossiers, c'était la mère qui, elle alléguait des problèmes de santé. Puis elle voulait garder ses enfants à la maison. Le père lui disait non, faut que je retourne travailler. Puis je m'inquiète pour mes enfants parce qu'ils sont en échec scolaire. La mère, elle disait, moi, je vais m'en occuper à temps plein, donc je vais faire l'école à la maison. Dans l'autre cas, c'était le contraire. C'est la mère qui voulait que les enfants retournent en classe parce qu'elle était une travailleuse des services prioritaires.
OK.
Donc, elle dit, moi, je peux pas offrir un encadrement scolaire. Puis lui, le père, il dit, non, moi, je vais les garder parce que, puis de toute façon, ils sont pas en situation d'échec scolaire. Puis, ça serait inutile de les exposer au virus. Mm-hmm. C'est le même juge qui a rendu la décision dans les deux. Et il dit que c'est contraire à l'intérêt de ne pas fréquenter l'école jusqu'en septembre prochain. Puis étant donné qu'actuellement, on a le droit, selon la loi sur l'instruction publique, à ce qu'un enfant ait l'obligation de fréquenter l'école, il a ordonné le retour à l'école.
Ah oui, hein?
Oui, donc effectivement, c'est les premiers jugements qui ont été rendus. Okay. Est-ce que je suis d'accord ou non? Ben ça, je vais m'abstenir de tout commentaire. Là, j'ai une autre opinion là-dessus.
D'accord. Sinon, la reprise du travail, ça doit se faire aussi dans le monde juridique et actuellement, on doit réinventer la façon qu'on fait les procès, si bien qu'on voit des premières. On pensait que le juge, on devait avoir la présence du suspect sur place, l'audience, donc des témoins, jury. On est en train de réinventer la chose actuellement.
Ben oui, la semaine passée, je pense que je vous ai parlé des fameux web constats qui étaient totalement une nouveauté par rapport à un service qu'un huissier peut offrir. En passant, cette semaine, les services de huissier reprennent, donc ça reprend tranquillement pas vite. Mais entre-temps, moi, par exemple, devant les tribunaux administratifs, tous les présences en personne sont annulées jusqu'en début juin.
OK.
Donc, faut se réinventer et dire, OK, est-ce qu'on fonctionne par visioconférence? Mais cette semaine, dans le fond, on a eu le procès de Jérémy Perron. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, en juillet 2018, c'est un bonhomme du Saguenay. Il avait agressé sexuellement une fille de 17 ans. Ouais. Et là, on parle en juillet 2018. On se rappelle des enseignements de l'arrêt Jordan qui dit qu'on doit être jugé rapidement dans les 18 à 30 mois.
Exact. Sinon, le procès tombe.
Le procès tombe. Alors là, faut penser rapidement là, pour respecter l'article 11 de la Charte canadienne qui dit qu'on doit être jugé dans un délai raisonnable. Alors, on a commencé à le faire par visioconférence et par téléconférence. Donc, à ce moment-là, il y a quand même de l'avancement et on fait en sorte de respecter quand même les règlements là qui ont suivi l'arrêt Jordan. Même moi, avant, j'avais des dossiers en Abitibi-Témiscamingue. Puis, on me forçait sincèrement à prendre l'avion puis me présenter en personne.
Quand même, hein?
Oui, donc...
Et ça, ben, après la COVID, on pourrait garder les mesures qu'on établit actuellement. Ouais.
Absolument. Puis, je pense que ça va accélérer l'accès à la justice. Puis, on va en tirer du positif, là, je pense, dans ces enseignements-là.
Avec la réouverture progressive, vient aussi les questions concernant la fameuse prestation canadienne d'urgence, la PCU, là, qui est la bouée de sauvetage de plusieurs Canadiens, plusieurs Québécois qui nous écoutent. La question, c'est est-ce que s'ils refusent de donner une prestation de travail, est-ce qu'ils peuvent se faire couper également la PCU? Donc, tu te fais rappeler au travail par ton boss, tu dis non, ma femme est malade ou pour des raisons personnelles, je veux pas me rendre au travail. Est-ce que je peux continuer de toucher le 2000?
Vous vous rappelez, depuis le début, ça, c'est la chanson que moi, je chante. Moi, je dis, effectivement, faites demande à la prestation canadienne d'urgence et vous verrez éventuellement comment ça se dessine, tout ça, parce que ça change tellement de semaine en semaine qu'on est aussi bien de faire la demande et on verra qu'est-ce qui se passe. Même toi, Louis-Philippe, tu m'avais dit à un certain moment donné, puis avec juste raison, prenez-le comme un prêt sans intérêt et sans pénalité.
Exact.
Je suis du même avis que toi. Mais là, la question, c'est si je refuse volontairement, est-ce que j'ai quand même droit à la PCU? Au départ, c'était un non. Maintenant, étant donné que c'est tellement difficile à contrôler tout ça, la réponse est comme oui. Puis le gouvernement fédéral a pelleté dans la Cour des provinces. Hier soir, l'information que j'ai pu récolter nous dit plutôt que si tu refuses, ça peut pas être uniquement parce que tu as peur de contaminer quelqu'un chez toi ou tu es dans des circonstances où tu peux blesser ou infecter quelqu'un d'autre.
C'est quand même une raison suffisante. On parle de sauver des vies, mais c'est pas suffisant?
Ben oui, mais moi, je me répète un peu, faites la demande pareil, puis si jamais on vous le réclame, à ce moment-là, vous justifierez à reculons, a posteriori, que vous aviez des motifs raisonnables.
À condition que l'argent rentre, parce que les gens peuvent pas se permettre d'attendre à ce qu'on règle a posteriori de l'argent dont ils ont besoin présentement. Là.
Ben c'est pour ça, faites la demande.
Oui.
Faites la demande, puis au pire aller, quand on va vous la redemander, vous donnerez des explications, etc. Pour l'instant, il n'y a pas encore de processus de contestation qui a été mis sur pied. C'est par exemple quand tu n'es pas d'accord avec une décision de la CNSST ou de l'assurance-emploi, tu as des délais de contestation. Actuellement, il n'y a pas ça qui a été mis sur pied. Je sais que ça va venir quand l'Agence de revenus du Canada va commencer à cogner aux portes et dire hey, « toi, tu n'y avais pas le droit ». Et là, il va y avoir un processus de contestation. Mais moi, je suis d'accord avec on pèle actuellement dans les sous des citoyens, dans les poches des citoyens pour leur permettre de dépenser, puis on verra un petit peu plus tard. Parce que ouais. Là, on vient de rajouter une nouvelle prestation, la prestation canadienne universelle, mais pour les étudiants.
Oui, puis aussi des aînés qui ont reçu un montant de 500 $.
Oui, mais ça, c'est un montant unique.
Oui, exact.
La prestation canadienne pour les étudiants, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'on vous offre un montant par mois, mais vous avez aussi le droit de travailler pour moins de 1000 $. Puis ça, c'est nouveau aussi. Chaque semaine, ça change. Comme le 19 mai, très rapidement, n'oubliez pas, vous avez le droit à la prestation supplémentaire pour ceux qui travaillent dans les services essentiels qui font un revenu inférieur. J'en ai parlé la semaine passée.
Mm-hmm. C'est important de permettre aux gens de travailler tout en touchant certaines formes d'aide parce qu'actuellement, l'aide qu'on donne, aussi essentielle soit-elle, fait une concurrence déloyale au privé qui veut ravoir ses employés qui ne gagnent pas des gros salaires. Présentement, des fois, ça vaut la peine de rester à la maison pour le 2000 et c'est pas, je ne juge pas en disant ça, ça fait partie des faits. On a de la misère à avoir la main-d'œuvre.
Oui, mais là, le problème, c'est que si on est tenté de rester à la maison avec le 2000, il va y avoir une expiration, là, ce programme-là. Et lorsqu'on va arriver à l'automne et la PCU se termine, parce qu'on ne pourra pas tenir ça vitam aeternam, là, comme société, ben là, non, financièrement.
Ça coûte des milliards.
Bien, ouais, c'est sûr. Ben ouais. Donc, quand il va avoir faim, on va se retrouver dans un domaine de travail où le taux de chômage va être à peu près de 15 %. Donc, à ce moment-là, ça va être encore plus difficile de trouver un emploi parce que les postes, les gens, ils vont commencer à faire du télétravail. Si moi, je fais du télétravail puis je vais pas à la cour, j'ai pas payé un hôtel, j'ai pas payé un avion, j'ai pas payé mon stationnement à l'aéroport.
C'est clair.
Comprenez? C'est tous des gens qui travaillent, là.
L'économie est directe autour, tu sais, devant une entreprise. Il y a un dépanneur. Pourquoi? Ben, il y a beaucoup de gens qui vont circuler pour aller à l'entreprise. Personne n'y va. Le dépanneur a plus raison d'être là.
Ou il va être là, mais c'est le propriétaire qui va faire le travail. Parce qu'il va avoir des revenus réduits.
Exact.
Fait que des fois, il ne faut pas regarder la carotte au bout de notre nez, mais regarder un petit peu plus loin, parce qu'un avenir, ça ne se dessine pas en quelques mois. Là.
Maître Mongeon, vous souhaitant une très belle semaine.
Bye, Sophie.
Bonne semaine. Absolument. Je m'ennuie de vous. Je vous souhaite de la santé. Soyez prudents, puis en espérant que cette roulette russe là, qui s'avance pour, qui se prépare pour nous, nous épargne.
On te télé-embrasse, Sophie.
Parfaitement, moi aussi.
Salut. Bye,